Interview.
1 du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de André Duny. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et, comment dit-on, co-président de la collégiale association de coordination de la nouvelle éducation populaire.
C'est ça, c'est ça.
Basé à Cré.
Son siège social est à Cornas, banlieue de Valence.
Alors, nous allons passer un bon moment ensemble, parce que les sujets sont riches avec un homme comme vous. En deux mots, pour terminer la présentation, vous dirigez un certain nombre d'émissions sur des radios associatives de la Drôme.
Bah, je ne dirige pas, hein. J'ai eu le bonheur d'être invité dans diverses radios et je tiens une chronique, hein, une 300e chronique, à chaque semaine, trois fois par semaine à Radio BLV, qu'on peut écouter sur radioblv.com, archives sonores, pour une société meilleure, André Duny, La Seine. J'en tiens, alors quand je dis « je », qu'on comprenne bien, hein, c'est toujours des émissions à plusieurs, sauf un peu sur Radio BLV, radio qui diffuse sur le Grand Valentinois, Romans et puis la Basse-Vallée de l'Isère, parce que là, c'est 13 minutes, 15 minutes. Donc, c'est quand même des chroniques courtes, mais j'ai souvent des invités. Par contre, on tient une chronique où on invite des associations locales et qu'on prépare toujours à 7, 8 ou 9 personnes, éducation populaire et médias, citoyens, c'est sur Radio Saint-Fé, mais il paraît que vous en avez rediffusé ici, Radio Saint-Fé-Réole, le mercredi de 9h à 10h et samedi de 19h à 20h.
Rappelez-vous le nom de cette émission d'ailleurs.
Eh ben, c'est Convergence et Transition pour une société meilleure.
Voilà. Alors oui, effectivement, elle a été quelquefois diffusée dans le cadre de notre partenariat avec Radio Saint-Féréole, puisque nous diffusons en direct et simultané Libertaria, et que parfois c'est vous à la place. Et donc, quand on a des ratés entre nous de programmation, ce qui nous a permis de l'écouter un petit peu. Et alors là, il est surtout question dans ces émissions, évidemment, de nouvelle éducation populaire, de changer un petit peu, dans le fondement, vraiment, nos manières de fonctionner. Il y a un rapport à la finance, à un nouveau système de finance, et puis tout un tas de sujets, de débats de société qu'on a déjà eu sur l'antenne, et puis bien sûr sur les antennes des autres radios, le gaz de schiste, tout notre rapport à l'écologie d'une manière générale et au développement durable. Vous avez cité le mot « la Seine ». Seine, en fait, c'est la coordination pour la nouvelle éducation populaire. Et comme ça, ça sera plus court. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette association? Quand elle est née? Quel est son objectif?
Eh bien, je l'ai lancée dans l'Ain comme coordination des éducations nouvelles à visée populaire, c'est-à-dire des mouvements pédagogiques. Donc, coordination des éducations nouvelles, Freinet, GFEN, AFL, etc. AFL, Association française pour la lecture, Freinet, tout le monde connaît. GFN, j'ai animé le GFN pendant une vingtaine d'années, groupe français éducation nouvelle, au plan national et Rhône-Alpes. C'est par migration de cette association qui voulait à l'école qu'on arrête avec les notes, les classements, les punitions, les cours magistraux et la culture fonctionnaire administrée et un peu sous mode autoritaire, et qu'on passe à une culture du projet collectif, transformatif, lié des fois à des situations locales, en connectant les enfants à des jardins bio à la maternelle ou au primaire, en essayant de connecter les collégiens à une radio locale ou à un journal, ou en faisant du spectacle, ou en construisant des serres solaires pour le tiers-monde. Bref, en faisant que les enfants apprennent, en construisant leur savoir dans des projets. Donc, en créant aussi des situations auto-constructives. Ben voilà, on a migré de cette éducation nouvelle vers une éducation populaire. On a carrément coupé tous les ponts avec l'éducation nationale en tant qu'ex-mouvement pédagogique pour venir carrément sur le terrain société civile. Donc, on est une éducation populaire entièrement calée sur la société réelle, des hommes réels, de la société réelle, et non plus comme avant dans l'État. puisque quand même l'éducation nationale, c'est une éducation d'État dans l'État. Voilà.
Un mot justement là-dessus, l'éducation nationale, vous la quittez et maintenant vous êtes presque en opposition au moment où vous essayez d'introduire de nouvelles valeurs. Alors, c'est quoi ? C'est que c'est impossible ou que...
Ce n'est pas des nouvelles valeurs, parce que les valeurs qu'on avait avant, c'était tous capables. Donc, ces valeurs d'égalité
quand je parle de nouvelles valeurs, c'était des nouvelles valeurs pour l'éducation nationale.
Ah
parce
oui,
eux,
alors.
Ils ne les ont pas.
Bien sûr, bien entendu. L'éducation nationale, excusez-moi, je vais être un peu rapide, on n'a pas des milliers d'heures devant nous, fabrique quand même, qu'on le veuille ou non, service public ou pas, même s'il doit faire de la peine à FSU ou autre, les petits soldats du capitalisme. C'est-à-dire des gens qui ont en tête beaucoup de gérer leur personne comme une petite entreprise où ce qui compte, ce n'est pas vraiment de créer, inventer ses savoirs ou sa culture qui puisse être utile à améliorer la vie et le monde, et en tout cas à être connecté à la vie tout court, mais beaucoup plus d'améliorer sa petite entreprise, c'est-à-dire son capital de bonnes notes, son capital de diplôme. Et on comprend que dans un contexte d'affrontement mondial qu'est la mondialisation, entre chacun est en guerre avec tous les autres, tel que le capital veut voir se développer la construction des individualités humaines. Hein. On est tous des individus, acheteurs, consommateurs. Tout ce qui intéresse le capital, c'est de vendre à un max de gens qui croient que parce qu'ils achètent, ils sont libérés ou ils se libèrent de leurs angoisses à vivre. Voilà. Nous, on cherchait déjà à l'époque à apprendre ensemble pour changer ensemble la vie collective. Donc moi, j'ai initié des jardins d'école dans l'Ain quand j'étais à l'UFM de Lyon, puisque j'étais formateur d'enseignants. On a cherché à générer des projets où des enfants de maternelle participaient déjà à des journaux de quartier, ce qui veut dire des apprentissages solides, des enfants de maternelle qui écrivent aux maires pour demander qu'on bêche la pelouse de l'école maternelle. Ça demande d'énormes apprentissages en lecture-écriture. On était bien là dans des enfants citoyens ou des enfants qui commencent à se poser les vraies grandes questions. Qu'est-ce qu'ils font dans en ayant atterri sur ce monde-là, voilà, on essayait de faire visiter les entreprises à des enfants, voir comment fonctionnait la poste, interroger sur les salaires, les hiérarchies, et faire prendre conscience que l'école était particulièrement hiérarchique et qu'ils y jouaient, eux, une place assez subalterne. Si on fait ça, on aide vraiment les enfants à se poser les pieds bien à plat sur la terre, ronde qui tourne très mal.
Ce que je voulais qu'on comprenne bien, André, c'est quel a été le frein, je veux dire, l'éducation nationale au bout d'un moment à dire ah, mais non, mais c'est pas du tout, ça sort de notre truc. Et puis comprendre pourquoi à un moment donné le militant que vous êtes ne va pas finalement continuer à militer pour changer ce système-là.
Pourquoi je continue pas? Premièrement parce que j'ai pris ma retraite.
D'accord.
Je n'ai parlé peut-être l'air, mais je suis déjà retraité de l'éducation nationale. Deuxièmement, j'y ai tenté des choses. J'ai été assistant à l'université de Besançon, donc j'ai eu 1800 étudiants. Et j'ai réussi un système où ils ont tous eu mention « à bien » ou « bien » en leur faisant produire des articles. J'étais chargé donc de 30 heures de cours en module dit pré-professionnel pour introduction au métier de l'éducation. Et par un biais que j'ai trouvé assez astucieux, ils n'ont jamais eu de notes, alors que dans l'enseignement supérieur, c'est la chose. J'ai mené des bagarres à l'UFM aussi pour faire des modules un peu différents, comme la soumission à l'autorité, etc., la non-violence active ou la résistance collective, non-violente, face aux oppressions dans le monde, en faisant par rapport à l'histoire, sous forme de jeu de rôle. Bon, j'ai donné pas mal, je constate simplement que les hiérarchies sont très prégnantes et que les zigomars comme moi, on essayait sans arrêt de les remettre dans le droit chemin.
Donc c'était peine perdue.
Revenons. Je ne sais pas si c'est peine perdue, on a semé des graines et aujourd'hui je vois qu'il y a eu un immense débat. J'ai écrit un opuscule, La note, un engrais qui ronge, qui a fait un certain bruit, est publié en Suisse,
oui,
en
oui.
France. Bon, eh bien, je me rends compte qu'aujourd'hui, le débat, depuis 6 mois, a tourné dans le monde, dans un tas de revues, que les notes en France sont une catastrophe et qu'en Finlande, on ne met pas de notes jusqu'en 3e et que ça marche beaucoup mieux.
Tout à fait. Revenons un peu sur la scène, la CEN. Alors, cette association est née quand ?
Je l'ai lancée avec des amis, on était une quinzaine, dans l'Ain. Juste avant attaque, c'est marrant. Et nous avons ensuite été plus ou moins un bureau interne à attaque, ce qui nous a fait un peu disparaître du paysage. On a repris notre autonomie, notre envol en 2007 avec l'effondrement d'attaque. Et on s'est mis à se développer de façon totalement autonome dans le paysage, Dromardèche, quand je suis venu m'installer ici. Et maintenant, on a un noyau à Lyon, dans les Cévennes, à Paris, en Bretagne. Et en Rhône-Alpes, donc 3, 4 départements, un petit noyau dans l'Isère aussi. Voilà, c'est une drôle d'association parce que je vois que les associations locales, sans faire de peine à personne, on est très spécialisé souvent. Hein, on fait le tri des déchets, on fait des choses.
Voilà, on a un objet qui est clair.
Voilà, qui est très clair, social, comme le Secours Populaire. On est là, on fait la solidarité et l'aide aux plus pauvres, on fait les vacances des gamins, on fait un endroit où on peut avoir des vêtements pas chers. Et mais on ne sort pas trop de ce créneau. Nous, la Seine, on a c'est une association généraliste qui regarde le paysage global. Et j'en dirai un petit mot tout à l'heure pour les éditeurs qui nous écoutent, parce que là, il y a un document récent qui est assez intéressant et peut-être même plus qu'une alerte. Donc, on a une fonction d'alerter aussi. Nous avons une vision un peu globale. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la société humaine planétaire, société donc économique et humaine planétaire? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la biosphère, c'est-à-dire cette mince couche de vie qui supporte toute l'activité humaine et les humains, comme aussi tout le monde animal et végétal? Et là, ça va très très mal. Donc, on a une vision globale, le paysage global, qu'on essaye de décliner en différentes sections. On a commencé par l'éco-construction, paille, bois, terre, eau, pain ou glace. Alias, comment fabriquer des immeubles de 3 à 6, 7 étages, sans moellons qui font 9 kg par moellon de gaz carbonique, tueur de climat? Comment faire avec des matériaux locaux comme le pin Douglas qu'on trouve dans le coin? Je dis pin, mais en fait, c'est un arbre qui s'appelle le Douglas. Comment faire avec de la paille, de la terre et de l'eau, et rien d'autre sans par vapeur chimique, sans saloperie des multinationales? Comment on peut construire propre, sain, très perspirant et très écologique, et surtout très efficace sur le plan de l'isolation? Ça peut être bioclimatique, on peut y installer tout à fait de la phytoépuration au pied de ces immeubles, des récupérateurs d'eau, des chauffe-eau solaires. Bref, on a commencé par faire un premier séminaire qui a eu un grand succès, plus de 130 personnes, on a pu en accepter que 70. C'était sur ces 15 ou 20 ateliers qu'on proposait aux gens, mais c'était sur une durée très courte, d'un week-end. Hein. Après, on a fait un deuxième université d'été qui était sur les énergies totalement autonome, comment faire ses panneaux solaires, comment faire ses éoliennes, etc. Donc ça a été 2 ou 3 jours, suivi de, mais là on a été ambitieux, 4 jours d'université d'été avec la coopérative ouvrière Mondragon d'Espagne. D'ailleurs, elle nous a coûté la peau des fesses, 700 € pour venir en avion. Mais Mondragon, c'est intéressant parce que c'est un prêtre rouge, sous Franco, en 53, qui a lancé une première coopérative à Mondragon, dans le pays basque espagnol. Et ce que les Français ne savent pas bien, c'est qu'ils ont créé 110 000 emplois et licencié 0 personne en 55 ans d'existence, tout en coopérative ouvrière. C'est-à-dire que c'est une coopérative ouvrière en réseau. Il y en a 110 ou 115 usines en réseau qui chacune soutient les autres avec un comité de surveillance général et des ouvriers, 60, 80, pas plus, dans chaque unité de production, qui discutent chaque semaine de leurs conditions de travail, de leur salaire, de l'état du marché, comment ça va les finances de la boîte, etc., avec leur cadre, sachant que tout homme a une voix et que l'écart des salaires est en gros de 1 à 3. Je sais qu'Ardélène fait mieux en Ardèche avec un écart de 1 à 1,2, ou 1,5, je crois, maintenant. Mais on les a fait venir pour dire, voilà, une autre économie est possible par laquelle les travailleurs seraient détenteurs du capital de leur entreprise et travailleraient dans des conditions qu'ils décident eux-mêmes. Ça ne suffit pas, parce que c'est vrai que le marché, des fois, les secoue comme des cocotiers. Et Cardellen a failli périr à un moment donné parce que ça ne se vendait pas. Et du coup, quand on est tout seul, c'est difficile. Eux, ils ont largement diversifié en 7 niches d'activité. Donc maintenant, ils se soutiennent à l'intérieur de leur propre mur. Pour Mondragon, une coopérative qui était en train de couler était soutenue par les autres coopératives qui reprenaient les ouvriers et qui injectaient de l'argent. Eh bien, c'est ce modèle-là que nous, on aimerait bien voir se développer, l'idée de réseaux de coopératives autour des communes, comme dit, ou comme le Val-de-Quin ou ailleurs, où telle petite entreprise lance des moulins de pierre pour paysans boulangers bio, parce que c'est une fabrication, il n'y en a qu'une en Bretagne, et qu'on pourrait en faire une locale. C'est très porteur de faire paysans boulangers bio, autant de ce qui se passe aujourd'hui, de la relocalisation. Mais ça serait porteur si cette petite entreprise était connectée à une autre entreprise qui fabrique autre chose, pas forcément dans l'agroalimentaire, et qu'elle soit soutenue par une troisième entreprise. La même chose pour les coopératives d'habitants. On a fait une soirée là-dessus à Porte-les-Valence sur l'idée de coopérative d'habitants. Je sais qu'à Cray, il se monte une coopérative d'habitants. Il y a une qui s'est lancée et qui marche à Villeurbanne, c'est-à-dire qu'un bloc de gens qui habitent un même immeuble ou un patelin ou un écoquartier, si vous voulez, dégagent du cash, au lieu de payer 270 euros par exemple leur part, ils en payent 300, les 30 euros par personne font un cash qui peut être mobilisé pour soutenir d'autres initiatives. Voilà des exemples de ce que la société civile qui se prendrait en main peut faire en matière de logement social, solidaire, écologique et surtout, solidaire et permettant à des gens d'être obligés de vivre ensemble parce que ce qui arrive est excessivement grave.
Alors là, on a touché du doigt justement peut-être le point, la thématique de la Seine, hein, c'est-à-dire vous voulez toucher un peu à tout, c'est une association généraliste, mais le point commun à tout ce que vous mettez en avant, que vous accolez au terme de nouvelle éducation populaire, touche cet aspect financier, c'est-à-dire un nouveau système financier qui évidemment se passe des banques avec une épargne populaire, là, telle que vous venez un petit peu de la décrire sur ce quartier. Alors est-ce que vous pouvez détailler encore un peu plus?
C'est peut-être un peu difficile des fois à comprendre. Nous, on est moins à lancer dans les monnaies locales solidaires, comme il s'en est créé une à Romans avec des amis, hein, Michel Lepesant, les Ossés, etc. De Romans ont lancé la commune mesure. Il y en a une à Toulouse, il y en a dans différents endroits, qui permettent à des entreprises de fonctionner en circuit entre elles. Nous avons mis sur notre site l'exemple que Jackie Doble de Dieulfi a bien développé dans deux tsunamis de la Seine. Hein, je ne sais pas si elle a adhéré, si elle m'entend, coucou. Des villes anglaises, pas villes en transition, hein, c'est des villes anglaises qui se sont arrangées à commander dans la commune, auprès des constructeurs de la commune, jusqu'à 80% de ce qui est consommé dans la commune est produit dans la commune. C'est les premières vraiment cités anglaises qui se sont ultra localisées, relocalisées. Eh bien, le résultat, c'est que l'argent, au lieu de faire 6 cycles, en fait 8 ou 9, que tout le monde s'enrichit et qu'on a, en quelque sorte, neutralisé les grandes fluctuations monétaires autour actuellement de l'euro, hein, qui est une monnaie en train d'être mal, voire de s'effondrer. Eh bien, on peut, si on produisait, mettons l'exemple d'Audi, je ne connais pas grand-chose à Audi, je ne veux pas embêter personne, mais si, par exemple, un territoire, comme dit, produisait lui-même sa nourriture dans un périphérie de 3-4 km, hein, comme on le montre dans nos films comme Picoy of Cuba. On montre que, par exemple, à La Havane, 3 millions de personnes sont faites à bouffer dans la ville et dans une périphérie de 3 km, tout en traction animale et tout en bio. Eh bien, nous nous battons énormément pour que les communes récupèrent la terre agricole périphérique et installent des producteurs, de préférence des coopératives, afin de nourrir les cantines au bio en direct, en propre. Eh bien, si on menait cette bagarre de réappropriation de la terre agricole, on aurait, en quelque sorte, une capacité de résilience face aux crises qui arrivent, sans commune mesure, avec des seules initiatives de petits groupes, d'associations séparées les unes des autres. Donc, récupérer les terres agricoles, aujourd'hui, ça devient vital. Le gasoil est à 3 euros dans 3, 4 ou 5 ans. Et le climat va au plus mal, j'en donnerai une information tout à l'heure. Et on fabriquerait, donc pour répondre bien à votre question, excusez-moi pour les circonvolutions, on répondrait bien à votre question, à savoir comment faire une économie locale circulaire qui soit à la fois écologique et qui permette à l'argent de ne jamais spéculer. Alors je sais, c'est mieux les monnaies fondantes, on n'en est pas encore là, mais si déjà on arrive à faire tourner, même si c'est des euros, dans la commune, le maximum de commandes et de livraisons, si ce sont les agriculteurs périphériques à la commune qui fournissent la commune, si la commune a l'autonomie énergétique, là j'en dirai un mot puisque c'est une de nos branches sur lesquelles on travaille le plus en ce moment, sur l'autonomie énergétique communale ou intercommunale, en prenant des exemples concrets, le Méné, une île espagnole, etc. Eh bien, cet argent-là, serait neutralisé. On ne pourrait plus en faire de la spéculation puisque on ne produirait pas pour Veolia des pollués de l'eau et que les actionnaires à 10 000 km sur leur yacht récupèrent la monnaie, 20% minimum de retour sur investissement. Mais tout cet argent serait, en quelque sorte, tournerait dans la commune et ferait de l'emploi. Hein, si vous faites une unité de méthanisation, mettons à 500 000 euros, qui fait pour 150 familles, eh bien, vous avez 3 emplois pérennes dans la commune. Les enfants vont à l'école de la commune. Les gens dépensent dans la commune, font appel aux charpentiers de la commune. Et tout le monde va s'enrichir lentement, mais solidement. Donc, première des choses, relocalisation économique, démocratie économique. On ne relocalise pas de l'éolien géant dans le Val-de-Drôme. Comme je vois des pétitions circulaires circuler, on demande cette éolienne géante de 7 millions d'euros pour faire de l'électricité du Val-de-Vaude. Non, moi, je n'entre pas dans ce trip-là de l'économie capitaliste verte. Ce que nous proposons, nous, on le trouve par exemple à La Ménée, en Bretagne, ce sont 7000 foyers d'une petite communauté de communes, 7000 foyers seulement, donc vous voyez, c'est un peu l'équivalent d'une partie du Val-de-Drôme, qui se sont cotisés, ils ont déjà ramassé 2 millions d'euros. Hein, c'est ce qu'on appelle l'épargne bourgeoise citoyenne. Et ils ont acheté les éoliennes. Ils ont fait un petit emprunt à des banques comme la Nef ou autres pour compléter. Hein. Ils en sont à 3 millions et quelques euros. Ils ont mis des petites éoliennes en route. Et avec ça, plus le biogaz, eh bien, ils essayent d'avoir leur autonomie énergétique intercommunale totale en 2020. Vous voyez, ici, Plan de Baie, c'est un peu le projet de Plan de Baie. En clair, une île espagnole qui a acheté des éoliennes par les habitants. Elles en ont acheté, je ne sais plus combien, 200. C'est des éoliennes moyennes et petites. Ils les ont mis en offshore. Ils ont monté l'eau au réservoir de 500 000 mètres cubes dans une montagne à 900 mètres. Et du coup, cette île est quasiment autonome en énergie électrique. C'est ce que je propose pour Valence. Ça a beaucoup fait ricaner. Valence, 300-400 éoliennes en pont sur le Rhône. Quand le Mistral souffle pendant 9 jours, vous montez l'eau au col des Limouches à 900 mètres d'altitude dans un réservoir de 800 000 mètres cubes. Et quand le Mistral ne souffle pas, vous avez de l'électricité. Mais pour qui ? On veut une économie sociale, solidaire, à savoir une économie qui va faire fonctionner la mairie, les services publics, la cantine bio, si possible gratos pour les plus pauvres, mais pas à 6,50 euros comme à Barjac, c'est trop cher. Une cantine, des écoles, des services publics, des HLM, priorité aux HLM, où ils vont pouvoir avoir de l'énergie pour pas trop cher. Voilà, donc notre piste à nous, c'est une association qui fait des analyses, je ne vais pas les dire maintenant tout de suite, parce qu'après on va dire c'est la cata tout ça, mais on est dans la cata. Cata économique, cata écologique, cata sociale, cata énergétique et surtout, ce que, dont personne ne parle, la cata alimentaire arrive. Et ça, ça va être hyper grave. C'est une rupture brutale d'approvisionnement des grandes villes. Face à cela, l'idée que les communes deviennent des lieux où on rapatrie la terre agricole, on rapatrie l'énergie, on rapatrie les capacités de construire écologique et sociale, eh bien, peut-être que ces idées-là, on se rend compte qu'elles ont maintenant beaucoup d'impact.
Je pense qu'on a bien compris qu'il y avait derrière la scène une grande volonté anticapitaliste, ça c'est clair. Par contre, il y a quelque chose qui va faire tiquer beaucoup de gens dans cette vallée de la Drôme et dans ce Diwa, pourtant très bio et très en avance, on peut le dire sur certains points, c'est cette notion de récupération des terres agricoles. Et là, c'est presque un soupçon de communisme qui arrive. Jusqu'où vous allez là dans l'éducation populaire pour faire comprendre que c'est bien ça qu'il va falloir faire à un moment donné ?
Eh bien nous, vous voyez, on a une émission un petit peu politique. Bah, la SEN, c'est une association totalement indépendante des partis, totalement société civile. Aucun parti ne contrôle, ni on n'a même pas d'adhérents des partis dans le collectif SEN qui se réunit là en Drôme-Ardèche. On est entre 12 et 16 à se réunir sur 20 personnes à peu près. Je ne sais pas si on va fâcher des gens en disant qu'on veut sortir du capitalisme, mais quand je vous aurais lu tout à l'heure ce dernier article là, des scientifiques de Nature. Ça se prononce, hein, Nature, sur l'effondrement du climat, c'est assez hallucinant, hein. Je pense que c'est ce système-là de la mondialisation capitaliste ultra-financière qui a tué la planète. On peut dire qu'il a tué parce que si vous allez voir les prévisions, c'est assez inquiétant. Mais en même temps, quand on regarde comment des communes comme Marina Leda, dont on vient d'acquérir tous les droits sur le film Marina Leda, la scène, donc on peut le projeter partout. Donc on va le projeter au cinéma, c'est l'Éden, hein, à Cré. On va le faire avec les groupes en transition. Mais je dirais un petit mot avec le programme qu'on a mis en place avec les groupes en transition du Val-de-Drôme, puisqu'on se complète un peu. On va projeter ce film. Ce film, c'est simple, c'est clair. 2300 habitants en lutte, dont grève de la faim, montée à l'Assemblée nationale espagnole il y a 20 ans pour récupérer 1200 hectares de terre en friche ou sur lesquels travaillaient péniblement des ouvriers agricoles et surtout des Africains pour un latifundiaire, un gros propriétaire terrien, un noble, quoi. Un noble terrien qui n'en faisait pas grand-chose de sa terre. Ils sont tellement bien bagarrés qu'ils l'ont récupéré en propriété communaliste. Ce n'est pas du communisme, c'est du communalisme. Ça peut ressembler au communisme dans ses images les plus généreuses. En aucun cas, ça ressemble à l'État centralisé, à l'État caserne et à l'État répresseur qu'on a connu en Union soviétique dans les années où il a abouti à ce qui devait aboutir, à son effondrement. Non, notre idée, c'est que vu la gravité de ce qui arrive, c'est en rassemblant la puissance d'une communauté locale, non pas en faisant du survivalisme à 5 ou 6 dans une grotte, hein, et un point d'eau avec une Kalachnikov. On n'est pas dans cette idée-là. Hein. Mais il y en a beaucoup des groupes comme ça aux États-Unis. Ils se trouvent un point d'eau, ils se trouvent à faire des patates, des poireaux, ils prennent quelques médicaments, ils stockent 6 mois de nourriture, et ils se disent « attendons la fin du monde ». On n'est pas dans cette idée-là. Mais comme vous le voyez bien qu'il y a un effondrement des banques, en Espagne, vous avez 30 000 euros. Vous les retirez, mettons, 3 000 ou 15 000 euros. On dit « non, non, monsieur, vous pouvez retirer 120 euros ». Et les gens retirent 120 euros. Et ils n'ont plus de liquidité. Mais même en Allemagne, en Grèce, bon, il y a déjà pas mal de temps. Et on croit que la France va échapper à l'effondrement généralisé du système bancaire mondial, qui est un système privé, où avant les États finançaient auprès de leur banque centrale, nous, enfin, la Banque de France, on peut avoir du déficit, c'était pas gênant. Aujourd'hui, ça se paye par des taux d'intérêt pharaoniques. On sait que la France, là, cette année, c'est 60 milliards d'euros d'intérêt d'une dette de 1700 milliards. Alors les gens ont du mal à se représenter, ben, c'est très simple. 60 milliards d'euros, c'est 15 milliards de plus que de payer 900 000 enseignants de France. On paye en intérêt de la dette, autant que si on créait 900 000 postes d'enseignants. Vous vous rendez compte, créer 900 000 emplois, eh bien on ne crée rien du tout, on alimente les oligarques de ces banques mondiales par 60 milliards d'argent français versés à des sociétés privées dont les actionnaires se font des bonis à 3 millions d'euros, à 17 millions d'euros. Ça ne s'est pas calmé du tout, contrairement à ce qu'on raconte. Donc, je ne vais pas vous dire leur salaire. Je ne vais pas rencontrer comment ils manipulent l'opinion, hein, comme en Grèce. Hein, la fameuse banque américaine qui gère à la fois l'agence de notation qui dégrade la Grèce et qui ensuite lui prête à 7% au lieu de lui prêter à 3%. Eh bien, voilà ce qui se passe. On est exactement dans les pays du Nord, dans la situation qu'on a fait vivre aux pays du Sud il y a 20 ou 30 ans. On a emprunté des pétrodollars qui étaient en abondance. On a dit, ouais, emprunté à 2%, mais à taux variable. Puis, quand ça va monter, ben, ça montre un petit peu. Ben, il y en a qui, maintenant, payent 27%. La ville de Saint-Étienne s'est endettée à taux variable. Elle est en faillite. Une ville de 250 000 habitants en faillite parce qu'elle a emprunté à taux variable. Elle doit rembourser du 17% et elle ne peut pas. Donc, il va bien falloir trouver des solutions autres. Eh bien, dans cette situation catastrophique, nous pensons, nous, que la solution communaliste, comme à Marina Leda, où 2300 habitants se sont bagarrés, mais là, c'est des bagarres, ils ont obtenu ces 1300 hectares, hein, c'est très précis, c'est 1300 hectares. Ils ont décidé immédiatement de mettre en production de poivrons grillés, bio, ratatouille. Ils ont monté une usine agroalimentaire locale et ils maîtrisent toute la filière. 300 emplois créés en 10 ans. Maintenant, ils montent d'autres coopératives. Ensuite, pour le logement, Marina Leda, qui est un modèle de démocratie, puisqu'il y a 3 assemblées générales par an pour gérer le budget, pour gérer qui va bosser, comment on travaille dans leurs usines municipalisées.
Des assemblées générales, vous disiez, hors antenne, de plus de 900 habitants des fois.
950 habitants, celles où il y en a le plus, 400, celles où il y en a le moins, sur 2300 habitants, 3 par an. Pour démocratique, je ne vois pas ça dit, moi. Bon, 10, c'est combien ? Vous m'avez dit 4 000 habitants. Ça voudrait dire qu'à 10, on est, comme il y a le double, hein, ça voudrait dire qu'à 10, au minimum, il y a 1800 personnes à l'Assemblée Générale, ce qui est possible hein, avec un système de petits groupes et de salles connectées entre elles avec des vidéotransmissions. Mais vous vous rendez compte ? Ça veut dire que le quart de la population est associé directement au budget. Mais je vous rappelle hein, que Porto Alegre, sur lequel sont sortis une dizaine de bouquins, ça a quand même été 10%. C'est-à-dire 150 000 habitants, bon certains disent que 120 000, d'autres disent un peu plus, allez on va se dire 130 000 habitants, qui ont fait le budget de la ville pendant 20 ans, une ville de plus grande, aussi grande que Lyon, 1 600 à 700 000 habitants. Avant Doncourt en France, ils se sont fait élire en disant « votez pour nous, nous ferons aucune décision ». C'est vous qui les ferez. 1000 commissions par-ci, par-là, des fêtes, des rencontres. Ben, Vendoncourt, 300 habitants ont fait le budget, toutes les décisions de Vendoncourt pendant 35 ans. Maintenant, ça part en cacahuète parce qu'il y a des cadres de chez Peugeot qui viennent s'installer. Hein, c'est du côté de Montbéliard. Et c'est la cata. Évidemment, ils ont leur villa, leur truc derrière des grands murs. Et ça ne fonctionne plus en collectif. Bon, c'est toujours ça qui arrive quand la classe moyenne se met dans un truc. Mais quand vous avez ces exemples extrêmement stimulants, eh bien, vous rendez compte qu'on peut aller avec la démocratie communale directe, au moins 10% de la population de disais-je, c'est-à-dire en gros 400 personnes, c'est facile à trouver, soit sur une liste, soit une liste plus restreinte de 29 personnes qui dit « on ne prend aucune décision, on va mettre en place grâce au butin municipal aux émissions de radio ». Si c'est bien conduit sur 3-4 mois, si la pub est bien faite, vous allez voir, si on dit aux gens « voilà, on a tant de budget d'investissement, on a tant de budget de fonctionnement, on a tant de possibilités d'investir à dit », qu'en pensez-vous ? On voudrait faire appel aux 1000 bobos de dit qui sont prêts à lâcher de l'argent à 1 ou 2% pour lancer une reprise des terres agricoles locales. Au prix de la terre agricole, peut-être un peu plus cher, puisque bon, elle est convoitée par tellement de grandes surfaces et autres machins, que bon, on peut l'acheter un petit peu plus cher pour permettre à paysans qui l'ont d'avoir la retraite un peu améliorée, mais sans aller au prix spéculatif où la multinationale Decathlon à Valence achète à 30 euros le mètre carré une terre qui vaut 0,5 euros avec la complicité d'un maire socialiste. Oui, on est libre de nos propos et avec 20% d'écologistes dans la mairie. On a envahi la mairie l'autre jour et ça a fait du grabuge. Hein. Pour dire, hein, nous, c'est collectif ville-campagne dans lequel il y a la Seine, il y a la Confédération paysanne, il y a deux partis politiques. Mais il y a quand même une majorité de la société civile qui dit « Malheureux, vous vendez la terre agricole, la meilleure terre de Valence, au moment où Valence a besoin de rapatrier, relocaliser sa production alimentaire pour faire une cantine. » C'est une misère la cantine bio de Valence dans le premier département de France. Une omelette bio par semaine, une tranche de pain bi que les enfants jettent parce qu'ils ne sont pas éduqués à manger du pain noir, ils sont éduqués à manger du pain blanc, et en gros, une ou deux pommes dans la semaine. Il faut arrêter, ça, ce n'est pas de la cantine bio. Si on veut faire la cantine bio, il faut racheter la plaine de Valence, jusqu'à Chabeuil. Or, c'était le cas en 1947. Agribiodrome, on fait une enquête historique. Ce que Valence, 40-45 000 habitants à peu près en 1947, 90% de l'alimentaire de Valence était dans un rayon de 30 km. Même avec des bœufs, même avec des chevaux, même avec des ânes, parce que moi je suis fils d'ouvrier agricole, je pourrais raconter comment j'ai survécu avec un âne, 15 chèvres, et sur des terrains communaux où il y avait un étang communal à Carpe, où il y avait un verger communal, où il y avait des pâtures communales, un bois communal. Nous, on a toujours vécu, nous, fils de très pauvres, à Randon, dans l'Isère, je cite bien l'endroit où nous étions, venant de Saint-Étienne, on a pu survivre à la fin de la guerre parce qu'il y avait ces terres communales. Ce n'était pas du communisme. On avait le droit d'une coupe de bois, on avait le droit de faire paître à tel endroit, on avait le droit de piquer des fruits dans le verger qui partait d'ailleurs un peu en cacahuète. Eh bien, c'est cette idée-là d'aujourd'hui que nous voulons développer, que la démocratie directe, territorialiser ce qu'on appelle la DDT, où les gens prennent le pouvoir communal, non pas pour l'intérêt d'une petite case, d'une petite secte, ou du cousin du maire, ou de ceci, ou de cela, mais en s'emparant du budget communal, en gérant la commune dans l'intérêt des biens communs, eh bien, il est tout à fait possible de donner confiance aux bobos du coin, de dire, ben, vous lâchez votre argent au tarif du livret A, ou peut-être moins, comme à la Méné, c'est moins. Les gens qui ne savent plus quoi faire de l'argent et qui savent de toute façon que l'argent, un beau jour, si les banques s'effondrent, leurs 200 000 euros, ils vont en récupérer 15 000.
Et puis on voit souvent des dons assez importants à des associations et tout ça. Il y a plein de gens qui sont prêts.
Voilà. Eh bien, le bobo que je suis, moi, je cotise à je ne sais pas combien, 15-20 entre Amnesty International, Secours Populaire. Je reçois à peu près 6-7 enveloppes par semaine. Eh bien, ces personnes-là qui ne savent pas quoi faire de leur pognon, qui ont le 3 frigos, 2 bagnoles, etc., mais qui veulent faire quelque chose pour le peuple, avec le peuple, peut faire ce système de SCIC où il y a à la fois la commune, des associations, des entreprises et des particuliers qui, en mobilisant l'argent, parce que la commune de Die n'est pas riche, hein, donc ce n'est pas la commune de Nigi qui va mobiliser toute seule, à moins d'emprunter et de se mettre à plat ventre devant les banques et de ruiner le pays, peuvent très bien mobiliser, comme à la Méné, vous avez vu, 2 millions d'euros, 7 000 familles. Bon, il y en a moins ici, mais peut-être qu'on peut mobiliser des millions d'euros en faisant un peu plus large et puis compléter avec des banques éthiques comme la NEF ou le Crédit Coopératif. Des banques où on est à peu près assuré de taux relativement pas trop élevés, mais qui soient minoritaires dans le projet. Du coup, vous voyez, on fait comme à Marina Leda, on peut lancer des coopératives agricoles périphériques, faire du poireau, patates, pommes de terre, courges, tout ce qu'il faut pour manger à la cantine, au bio, avec des repas pas chers pour les enfants. On peut assurer les maisons de retraite. On peut assurer l'alimentation des plus pauvres, parce que moi, je ne travaille que pour les plus pauvres. Je prends l'écologie, vous voyez, par le social. Un des credos de la CEN, hein. C'est bien vrai qu'en prenant l'écologie par le social, vous faites une adhésion populaire à l'écologie. Aujourd'hui, l'écologie n'est pas populaire. Elle est à la fois populaire et impopulaire, parce que c'est une écologie sans le peuple.
Ça fait un peu peur, c'est presque chiant.
Ah oui, ça devient chiant. Oui, c'est toujours le même discours. Il faut trier, il faut consommer, il faut fermer l'eau du robinet quand on se brosse les dents. Il faut ouvrir la porte du frigo, vite la refermer.
Il faut manger
bio.
Ça
a tué l'écologie. Oui, il faut manger bio on y va, à 1 euro le yaourt. Il faut manger le kilo de carottes défraîchies qu'on voit à Satoris ou ailleurs. Pas ici, parce qu'ici, il y a Carline qui a quand même fait des bons approvisionnements. Mais quand vous voyez à Satoris le kilo de carottes défraîchies, ça fait 10 jours qu'ils sont dans le cajot et qui piquent du nez et que c'est à 4,70 euros en pleine période de production. Ou alors quand on vous dit « Ah ben ça, c'est une belle tomate, c'est une Green Zebra ». Moi, j'en ai dans mon jardin, hein, puisque je cultive 14 variétés de tomates. Eh bien, cette Green Zebra, vous la payerez 7 euros le kilo, alors qu'on en produit des milliers de tonnes, si on veut. Ça vient très bien, c'est très productif. C'est beau comme tout, c'est délicieux, presque pas de pépins. La Green Zebra, d'ailleurs, c'est tomate verte. Elle est toute verte dedans. Dehors, elle est verte. Quand elle devient un peu jaune, c'est qu'elle est mûre. Eh bien, on vous vend ça 8 euros le kilo en plein mois d'août. C'est à se taper le cul par terre. Alors ça, ce bio-là, il est impopulaire dans les HLM. On a fait une enquête action cet été, nous, la Seine, avec... on a fait du porte-à-porte dans les 3 quartiers HLM du Teil. Si vous avez vu cette misère, mais c'est à pleurer. C'est-à-dire qu'en France, il y a des zones où les gens vivent dans des conditions absolument indignes. Avec des gens qui les abandonnent. Office HLM, je ne vais pas dire son nom, pour ne pas trop dénoncer de gens. Mais voilà, on a vu une femme qui vit avec un mari handicapé et 4 enfants, bien sûr d'origine algérienne, puisque les HLM, c'est les lieux de bannissement où on se débarrasse des gens qui sont des ouvriers et ceux qu'on avait fait venir qui étaient plutôt visibles.
Ceux qui n'ont pas la bonne couleur.
Et ceux qui n'ont pas la bonne couleur, donc plutôt visibles, voilà, justement. Et elle, ça fait la 11e lettre qu'elle fait à l'agence HLM pour réparer son parquet, parce qu'ils se prennent les pieds dedans, le parquet est pourri, aucune réponse. Par contre, il faut payer ric-rac le loyer. Le chiotte déborde, ça fait rien, on ne réparera pas. Il faut changer les robinets. Ce n'est pas une histoire de pastilles. La pastille, c'est le locataire. Bon, ce n'est pas une histoire. Mais quand le robinet, vous avez beau serrer, changer les pastilles, qui continue de couler comme un malade et que personne ne vous le change, vous êtes obligé de le changer. C'est 20 euros ou 15 euros. Et on a vu des situations à pleurer. Alors que devant ces HLM, il y a des platanes. C'est toutes les discussions qu'on va avoir avec les groupes en transition, qu'on a lancé il y a quelque temps avec la guérilla potagère courge en HLM. Mais vous vous rendez compte que devant ces HLM, pour très peu cher, avec un tractopelle, on enlève un peu de goudron, un peu de saloperie qui traîne. On réduit la taille des parkings.
Eh oui.
Et on fait un jardin partagé. Et sur, avec les fruits rouges, avec de la vigne, fruits rouges, on restaure la santé des enfants. Et on crée de la dynamique sociale. Les vieux, les jeunes commencent à se parler. Personne, au début, il y en a 2-3 connards qui vont shooter dans la courge. Eh bien, tout le monde va les engueuler. On va faire une petite pièce d'eau au milieu. Et on va sortir les chaises. On va manger les courges au moment où elles se mangent, c'est-à-dire en fin octobre. On va se réunir pour la collecte de fraises, parce qu'on ne va pas faire des milliers de tonnes de fraises au pied des HLM. Mais on va en faire un petit peu. Puis on va se dire, il fait trop chaud. Donc sur la fraise, on va mettre de la vigne. Sur la vigne, on va mettre 2-3 figuiers. On va couper ces arbres qui ne servent à rien, qui sont les platanes, tous malades. On va mettre des arbres fruitiers. Eh bien, bien sûr qu'au début, il va y avoir des conflits. Tu sais qui bouffe les pommes, hein, tu as tout pris les pommes. Mais petit à petit, on sera obligé de se parler pour gérer à minima une occasion de bonne santé alimentaire au pied des HLM. Et voilà ce que nous ont dit des enfants de moins de 12 ans dans les HLM du Teil cet été, quand on est allé les voir tous, un par un, au porte-à-porte. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'à force d'être bannis, isolés, ségrégés, voire vilipendés par certaines options racistes de partis qui opposent des Français à d'autres, eh bien, les gens ne rêvent plus. Puisque la question numéro un, c'est que rêvez-vous de voir apparaître dans vos HLM, dans votre quartier, dans votre ville, qui fasse une vie meilleure? La question ne pouvait pas être plus claire. J'en dis, ça veut dire quoi rêver? On ne rêve pas, nous on est là, point. Donc les gens ne se bougent même pas pour améliorer le peu qui pourrait être amélioré, c'est-à-dire faire des bandes de terre dans lesquelles on mettrait au moins des tomates cerises, des choses comme ça. Bref, qui améliorerait tout de suite la vie, qui la rendrait tout de suite plus belle.
Non seulement ils ne rêvent pas, et les journalistes classiques, disons, se gargarisent du fait que même ils détruisent leur lieu d'habitat. André Duny, de la Seine Coordination pour une nouvelle éducation populaire, il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble, un entretien passionnant. Je voudrais que sur ces 10 dernières minutes, justement, vous puissiez un petit peu présenter quels sont les prochains projets de la scène, quelles sont justement vos prochaines actions d'éducation populaire très concrètes, et puis pourquoi pas un petit... Vous avez amené plein de papiers, peut-être ces quelques dernières choses, voilà, en 10 minutes.
La fin de la planète en 2100. Ça, c'est un article, non pas de folle dingue André Dunier ou qui vous voudrait d'écologie radicale. Ça, c'est un article de la revue la plus prestigieuse du monde, Nurture, faite par 22 chercheurs appartenant à une quinzaine d'institutions scientifiques internationales. Ils disent que, au rythme de changement du climat et de réchauffement de la planète, non seulement on aura 50 mètres d'eau, adieu Marseille, adieu la Charente, adieu une partie de la Bretagne, adieu la Belgique, adieu la Hollande, adieu New York, adieu Shanghai, 3 milliards de personnes qui immigreront, on ne sait pas trop où on va les caser, peut-être sur le Mont Blanc, mais il y a longtemps qu'il n'y aura plus de neige sur le Mont Blanc. Plus 8 degrés dans le Val de Drôme, plus 8 degrés, 2100. Tout de suite, pour nos enfants et petits-enfants, c'est là. Selon l'étude, presque la moitié des climats que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre, je cite l'article, pourraient bientôt avoir disparu. Ils seraient ainsi remplacés entre 12 et 39% de la surface du globe, 40% en gros, par des conditions qui n'ont jamais été connues par les organismes vivants. Et ce changement s'effectuerait de manière si brutale que les espèces et les écosystèmes ne peuvent s'y adapter. Les bouleversements des milieux naturels ont toujours existé. Bien sûr, il y a eu 6 extinctions des espèces, et bien sûr, il y a 12 000 ans, il y a eu la période glaciaire qui a fait disparaître énormément d'espèces. Mais alors que l'explosion du Cambrien et le réchauffement de l'Holocène ont été déclenchés par des catastrophes naturelles, ces changements, c'est le capitalisme industrialisé à outrance, la mondialisation, le fait de ce qu'une minorité de 1200 milliardaires en dollars et une minorité de 12 à 13 millionnaires en dollars qui gèrent la planète à leur profit et qui créent aujourd'hui, avec l'exploitation intensive du gaz de schiste, du pétrole, du charbon, etc., de l'électricité, pour faire tourner des usines qui vendent des choses complètement inutiles depuis 30 ans, on n'a pas besoin d'avoir 3 portables, 3 machins. Tout ceci est en train de créer actuellement, après cette période glaciaire et interglaciaire, des changements biologiques les plus extrêmes, moins de 1000 ans, surtout depuis cette révolution du capitalisme, 19e siècle, en 2 siècles. Et les chercheurs de poursuivre. La planète ne possède pas la mémoire de son état précédent. Nous prenons un énorme risque à modifier le bilan radiatif de la Terre. Ce basculement brutal du système climatique vers un nouvel état d'équilibre auquel les écosystèmes, c'est-à-dire tout le système de la vie et nos sociétés humaines, sont incapables de s'adapter. Le prochain changement pourrait être extrêmement destructeur pour la planète. Une fois le seuil critique franchi, il n'y a plus aucune possibilité de revenir en arrière. Pour illustrer un peu cet article, quand vous avez un réchauffement rapide, le permafrost fond en Sibérie. Il libère des centaines de milliards de mètres cubes de méthane, 24 fois plus d'effet de serre que le CO2. Quand ça se réchauffe, les océans libèrent le gaz carbonique en se réchauffant. Se détruisent le plancton, qui est un grand capteur de CO2, ainsi que les corails. Quand fond la glace du Nord, eh bien, le soleil ne se réfléchit plus sur la glace comme sur un miroir. Il rentre dans les océans, les réchauffe. Les océans qui se réchauffent, les courants s'inversent, détruisant le climat.
Voilà, les courants froids s'arrêtent même. Hein.
Et même, ils peuvent s'arrêter. Et donc, on est dans des conditions où conclut l'article, en 2100, plus aucune vie sur Terre. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Il me semble que si vous écoutez cette émission, vous serez d'accord avec ce maire. Ce maire, il est près de Lille. Il dit que la première des conversions écologiques, c'est sociale. Aujourd'hui, les dépenses d'énergie, c'est en moyenne de 15% pour les 20% les plus pauvres de France, contre seulement 6% pour les 20% les plus riches. Donc, si la solution proposée, c'est d'augmenter le coût de l'essence, du gaz, de l'électricité, comme c'est le cas actuellement, refusons-le. Lui, ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est qu'il a tout de suite commencé par installer des chauffe-eau solaires, la réhabilitation thermique des logements, notamment avec la paille. On peut tout à fait, en mettant les chauffe-eau solaires sur les HLM que j'ai visités au Teil, là, où on a mis du gaz, ce qui est une bêtise sans nom de mettre du gaz, alors que le gaz, il est prévu plus 5% d'augmentation jusqu'en 2050. Bah, ça va être plus cher que le gasoil ancien ou que même l'électricité nucléaire. Eh bien, la réhabilitation thermique des logements peut très bien se faire comme en Allemagne. Des chauffe-eau solaires en cascade sur les toits. L'eau monte à 90 degrés à la fin du mois d'août. On n'a pas besoin de prendre 10 douches par jour. Qu'est-ce qu'on fait? On stocke l'eau chaude dans des réservoirs demi-cylindriques qu'on accole aux façades nord des HLM. On les isole par de la paille, de la terre, avec un système de petite architecture en bois, bois Douglas local, paille locale, terre locale, eau locale. alors qu'en Allemagne, il fait beaucoup moins chaud que chez nous. L'eau montée à 90 degrés dans un réservoir de 500 m3 accolé à un immeuble HLM circule dans les radiateurs gratos et chauffe gratos jusqu'à Noël, et même plus tard. Il y a 1000 solutions qui permettraient de faire des petits jardins partagés au pied des HLM pour que le crash alimentaire qui arrive, je rappelle, terminer les camions, les 90% de ce que mange Valence est dans des camions, 95% de ce que mange Paris est dans des camions. Si on arrête ça, c'est la disette totale et la guerre civile en 3 jours. Préparons-nous aujourd'hui à tous ensemble se mobiliser. Société civile, les riches donnant de l'argent pour installer la préemption des terres agricoles, pour construire paille bois terreau, pour installer des systèmes de chauffe-eau et d'isolation des appartements, pour installer des réservoirs d'eau au pied des appartements récupérant l'eau fluviale de l'hiver. Organisons-nous pour que soient construits des petits systèmes énergétiques, qui, des digesteurs où on met du caca, où on met de la paille. Sachez qu'une botte de paille d'une tonne, c'est 600 m3 de méthane. Il y a de quoi faire la cuisine. Et surtout, en cogénération, on fait de l'électricité avec le méthane, on fait du chauffage, parce que le moteur qui tourne chauffe dans les canalisations, les services publics. Mais moi, je ne chauffe pas les grandes surfaces, je ne fais pas de l'énergie pour les grandes entreprises multinationales, ni pour les grands systèmes bancaires. Sachez que 22 communes allemandes se sont équipées en biogaz, électricité et chaleur. Savez-vous qu'elles payent aujourd'hui l'énergie électrique 30% moins cher que les 3 fournisseurs allemands d'énergie électrique? 30%. Savez-vous qu'à 1,5%, les prêts ont été remboursés totalement 7 ans avec une autonomie maintenant, et ils sont propriétaires de leur installation? 7 ans seulement pour amortir des installations biogaz en cogénération, chaleur, gaz, électricité. Vous vous rendez compte? On a les solutions et ça sera une vie tellement meilleure, qu'il y ait des emplois dits, qu'il y ait des jardins partagés au pied des HLM et qu'on transforme une place en virant les bagnoles en jardin avec des fruits rouges, de la vigne, et qu'on reconvertisse peut-être certaines vignes en poireaux, patates, tomates, que ces HLM soient isolés, que les gens soient obligés de se rencontrer pour justement cultiver au pied de chez eux. Eh bien voilà, pour nos prochaines initiatives, nous vous invitons. Il y aura avec Groupe en Transition et sans doute les Amis de la Terre un week-end permaculture, sans doute 14-15 octobre du côté de Cray. Nous allons inviter ce fameux maire près de Lille, que ça fait 15 ans qu'il se bat pour récupérer du foncier périurbain, comme un tas de maires de l'Ardèche, pas du tout comme le maire de Valence, pas celui de Saint-Péret près duquel j'habite. 100 hectares pour les grandes surfaces, il restera bientôt plus un mètre carré pour se faire à manger à Saint-Péret. À Cornas, où j'habite, je suis à la commission environnement, hein, je ne joue pas un rôle capital, mais quand même, la décision a été prise de classer toutes les terres agricoles en zone agricole protégée. Donc plus de risque de rond-point, de déviation, d'immeubles ou surtout de grandes surfaces préemptant des terres agricoles. Il y a 7 moyens de bloquer la terre agricole sans faire du communisme, comme il craignait notre animateur là, mais en faisant quelque chose qui est de la vie, du vital, des emplois. Et des emplois parfaitement pérennes, car se faire à bouffer, se faire de l'énergie et se faire des bâtiments isolés ou isoler des bâtiments, c'est 400 000 emplois. Bon, c'est la société Sidler qui est... C'est 1 million, 1,5 million d'emplois si on fait du bio périphérique local.
Oh, absolument. André, il faut qu'on s'arrête. Juste vraiment pour terminer, où peut-on vous trouver? Il y a un site internet, bien il y a sûr. Des coordonnées. Il faut
site...
adhérer d'ailleurs.
On peut adhérer, bien sûr, ça sera avec plaisir. Si vous adhérez maintenant pour 2012, c'est moitié prix, hein, bien sûr, c'est pas cher, hein, c'est 3 euros pour ceux qui sont entre RSA et RMI. Ça doit être 6-7 euros pour ceux qui sont en dessous de 600 euros. Ça doit être moins de 10 euros pour ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, 960 euros, c'est-à-dire pour exactement 10 millions de personnes en France. C'est très dégressif, c'est pas cher. Voilà, puisqu'on est dans l'écologie sociale, on a de plus en plus de gens pas très riches à la Seine, et j'en suis très heureux, ce qui crée beaucoup de difficultés pour nos ressources. Donc on peut adhérer à la Seine, on peut trouver un butin sur le site, et quelques-unes de ces idées sur notre site, c'est très simple, hein, www.la-cen.org, tout en minuscule, la-la-moyen, hein, tiré du 6, cen.org. Sinon, vous pouvez nous téléphoner si vous avez été intéressé par l'émission 06 75 80 05 79. 06 75 80 05 79, mais sur le site, vous trouverez d'autres numéros de téléphone. Si vous êtes intéressé par le week-end permaculture, faites-nous le savoir. Si vous êtes intéressé par le fait qu'on va inviter ce maire du Nord qui explique que depuis 15-20 ans, il a récupéré la terre agricole, eh bien, faites-nous le savoir. On va faire une soirée avec lui, ainsi qu'avec le maire de Moinsartou, qui lui vient d'acheter 180 hectares pour une cantine au bio. 85% déjà de sa cantine au bio. Moinsartou, près de Nice, il y a plein d'endroits. Et si vous êtes intéressé par autonomie énergétique, eh bien, nous avons un petit film sur la Ménée qui montre comment il se débrouille pour être entièrement autonome. Si vous êtes intéressé par la démocratie communale, Adi, pour enfin avoir un pouvoir vraiment démocratique, eh bien, vous regardez notre film Marina Leda qui sera à l'Éden, je crois, au mois de mars-avril.
On a eu un maximum d'exemples, André. Je t'inviterai volontiers à repasser, bien sûr, n'importe quand pour qu'on puisse continuer encore tous ces débats. On aurait pu parler aussi du gaz de schiste encore quelques heures.
Parce que vous êtes mal placé ici, Adi, mais pour oui, le gaz de schiste, hein, parce que vous êtes le dernier petit qui intéresse fortement les multinationales ravageuses du capital et qui voudraient bien trouer votre territoire pour en extraire cette saloperie.
Parce qu'au moins ici, il n'y a pas trop d'habitants qui seront touchés.
Voilà.
Merci André Duny de La Seine.
Merci à tous. Et si vous avez été intéressé, écrivez-nous contact@liste.la-cen.org et discutez avec nous, on vous répondra.
À bientôt.
À bientôt.
L'interview du jour.